Les maîtres sonneurs, huitième veillée. Brulette était toute tremblante, et quand je lui demandai ce qu'elle avait et ce qu'elle pensait, elle me répondit en portant à sa joue le revers de sa main. « Cet homme-là est aimable, tiennet, mais il est bien hardi. » Comme j'étais allumée un peu plus que de coutume, je me trouvai assez courageux pour lui dire « Si la bouche d'un étranger vous a offensé la peau, celle d'un ami peut enlever la tâche. » Mais elle me repoussa en répondant « Il est parti, et il y a sagesse à oublier ceux qui s'en vont. » Mêmement, le pauvre José « Oh, celui-là, c'est différent, » dit-elle. « Pourquoi différent ? Vous ne répondez point ? Ah, Brulette, vous en tenez pour... »«
Pour qui ? »
dit-elle vivement. « Comment s'appelle-t-il ? Dis donc, puisque tu le connais. » « C'est... » lui répondis-je en riant. « L'homme noir, pour qui José s'est donné au diable, et qui vous a fait peur, un soir de ce printemps que vous étiez dans ma maison. » « Non, non, tu te moques. Dis-moi son nom, son état, son pays. » « Non pas, Brulette. Tu dis qu'il faut oublier les absents. Et j'aime autant ne pas te faire changer d'avis. » Le monde de la paroisse s'étonna bien de voir le cornemuseux parti comme par miracle, sans qu'on eût songé à s'informer de lui. Quelques-uns l'avaient bien questionné, mais à l'un il avait dit être marchois et s'appeler d'une façon. À l'autre, il avait dit autrement, et nul ne savait la vérité. Je leur jetai encore un nom différent pour les dérouter. Non pas qu'Uriel le gâteux des blés eût rien à craindre de personne, après qu'Uriel le cornemuseux avait si bien monté la tête à tout le monde, mais pour me divertir, et aussi pour faire enrager Brulette. Puis, quand on me demanda d'où je le connaissais, je répondis en me moquant que je ne le connaissais pas, qu'il lui avait pris fantaisie en arrivant de m'accoster comme un ami et que j'avais répondu de même par manière de plaisanter. Cependant, Brulette m'ayant questionné à fond, force me fut de lui dire ce que j'en savais, et encore que ce ne fut pas grand-chose. Elle regretta de l'entendre, car elle avait, comme beaucoup de gens du pays, un grand préjugé contre les étrangers, et contre les muletiers principalement. Je pensais que cette répugnance lui ferait vitement oublier Uriel, et si elle y songea, elle ne le montra guère, car elle continua la joyeuse vie qui lui plaisait, sans marquer de préférence à personne, disant que, voulant être femme aussi fidèle qu'elle était fille insoucieuse, elle avait le droit de prendre son temps et d'étudier son monde. Et tant qu'à moi, me répétant souvent qu'elle ne voulait que mon amitié fidèle et tranquille, sans idée de mariage. Mon naturel ne me portant point à la tristesse, je n'en fis point de maladie. Je me sentais bien un peu comme Brulette à l'endroit de la liberté. J'usais de la mienne comme un garçon, et je prenais le plaisir où je le trouvais, sans la chaîne. Mais, ma fougue passée, je revenais toujours auprès de ma belle cousine, comme en une compagnie douce, honnête et réjouissante, dont je me serais trop privée en essayant de bouder contre moi-même. Elle avait plus d'esprit que toutes les filles et femmes de l'endroit, et puis son logis était agréable, toujours propre et bien gouverné, ne sentant point la gêne, et se remplissant, dans les veillées d'hiver comme dans tous les autres chômages de l'année, de la plus gentille jeunesse de la paroisse. Les filles suivaient volontiers la compagnie de cette belle, parce qu'il y pleuvait des garçons à choisir, et que, de temps en temps, elles y accrochaient un mari pour leur compte. Mêmement, Brulette se servait de l'estime qu'on faisait de son esprit juste et de ses jolies paroles, pour décider les jeunes gens à donner leur attention à des filles qui les convoitaient, et elle s'y montrait généreuse, comme font les riches qui savent bien ne devoir jamais manquer. Le grand-père Brûlé aimait cette jeune compagnie, et la réjouissait par ses vieilles chansons et par beaucoup de belles histoires qu'il savait. Par des fois, le mariton venait aussi pour un moment, à seule fin d'avoir à parler de son garçon. Et c'était une femme de grande causette, encore très fraîche, et donnant aux jeunes filles la vraie manière de se bien habiller, car elle était élégante pour complaire à son maître Benoît, lequel voulait que, par sa bonne mine et sa braverie, elle fût belle enseigne à sa maison. Il n'était même point rare qu'au passage, les vielleux du pays, voyant là de la jeunesse rassemblée, ne se missent en besogne de faire danser devant la porte, si bien que la brulette, en son petit logis, sans autre avoir de conséquence que sa gentillesse et sa belle grâce, devint comme une reine, que les filles laides et délaissées critiquaient tout bas, mais que les autres trouvaient plus de profit que de dépit à reconnaître et à fréquenter. Il y avait approchant une année qu'on se divertissait ainsi, sans avoir reçu d'autres nouvelles de Joseph que deux lettres par lesquelles il faisait connaître à sa mère qu'il était en bonne santé et gagnait bien sa vie dans le Bourbonnais. Il n'y disait point l'endroit de sa demeure, et les deux lettres portaient la marque de deux endroits différents. Mêmement, la seconde n'était guère commode à comprendre, encore que notre nouveau curé fût très adroit à lire les Écritures. Mais il paraissait que Joseph s'était fait enseigner l'instruction, et s'était essayé pour la première fois à écrire de lui-même. Enfin vint une troisième lettre adressée à Brulette, et monsieur le curé la lut bien couramment et la trouva clairement tournée. Celle-là disait que Joseph était un peu malade et s'en remettait à la main d'un ami pour donner de ses nouvelles. Ce n'était qu'une fièvre de printemps et l'on ne s'en devait point tourmenter. On y disait encore qu'il était avec des amis, lesquels, faisant coutume de voyager, se mettaient en route pour le pays de Chambéra, d'où ils écriraient encore, si son état venait à s'empirer, malgré les grands soins qu'ils lui donnaient. « Mon Dieu !» dit Brulette, quand le curé lui eut fait entendre ce qu'il y avait sur ce papier. « J'ai grand peur qu'il ne se soit fait muletier aussi, et je n'oserais dire à sa mère ni sa maladie ni l'état qu'il a pris. La pauvre âme a bien assez de peine comme ça. » Et puis, regardant la lettre, elle demanda ce que disait la signature. Monsieur le curé, qui n'y avait pas fait grande attention, mit ses lunettes et se prit à rire, disant qu'il n'avait jamais vu chose pareille, et qu'il avait beau s'y reprendre, il n'y voyait, en guise de nom, que la représentation d'un bout d'oreille avec un anneau et une manière de cœur passé dedans. « C'est, dit-il, quelque signe de compagnonnage, toute confrérie a ses emblèmes, et personne n'y connaît goutte. » Mais Brulette comprit fort bien, se troubla un peu, emporta la lettre et l'examina souvent, je peux croire, d'un œil moins indifférent qu'elle ne le prétendait. Car il lui poussa en tête l'idée de savoir lire, et bien secrètement elle s'y mit, avec l'aide d'une ancienne fille de chambre de noble qui était retirée mercière en notre bourg, et qui venait souvent babiller en une maison si bien achalandée de monde, comme était celle de ma cousine. Il ne fallut pas grand temps à une tête si futée pour en savoir long, et un beau jour, je fus bien étonnée de voir qu'elle écrivait des chansons et des prières qui paraissaient moulées finement. Je ne pus m'empêcher de lui demander si c'était pour correspondre avec Joseph ou avec le beau muletier qu'elle s'apprenait des malices au-dessus de son état. « Il s'agit bien de ce pharaon aux oreilles percées, » fit-elle en riant. « Me crois-tu, fille, si peu réfléchie que d'envoyer des lettres à un garçon étranger ? Mais si Joseph nous revient savant, il aura bien fait de se sortir de sa bêtise. Et tant qu'à moi, je ne suis point fâchée non plus d'être un peu moins sotte que je n'étais. » « Brulette, Brulette, lui dis-je, vous mettez votre idée hors de votre pays et de vos amis. Ça vous portera malheur, prenez-y garde. Je ne suis pas plus tranquille pour Joseph là-bas que pour vous ici. » « Tu peux être tranquille sur mon compte, tiennet. J'ai la tête froide, malgré qu'on en dise. Tant qu'à notre pauvre gars, j'en suis bien en peine, car nous voilà depuis 6 mois bientôt, sans nouvelles de lui. Et ce beau muletier, qui avait si bien promis d'en donner, n'y a plus songé. La Mariton se désole de l'oubli de José, car elle n'a point su sa maladie, et peut-être qu'il est mort, sans que personne s'en doute. Je lui remontrai que dans ce cas-là, nous en aurions reçu avertissement, et que le manque de nouvelles signifiait toujours bonne nouvelle. « Tu diras ce que tu voudras, » répondit-elle. « J'ai rêvé, il y a deux nuits, que je voyais arriver ici le muletier, nous rapportant sa musette et nous annonçant qu'il avait péri. Depuis ce rêve, je suis attristée dans mon cœur et me fais reproche d'avoir laissé passer tant de temps sans songer à mon pauvre ami de jeunesse et sans m'essayer à lui écrire. Mais où lui aurais-je envoyé ma lettre, puisque je ne sais pas seulement où il est ?» Disant cela, Brulette, qui était auprès de la fenêtre et regardait par hasard au dehors, poussa un cri et devint toute blanche de peur. Je regardai aussi et vis Huriel, tout encharbonné et noirci dans sa figure et ses habillements, comme je l'avais vu la première fois. Il venait vers nous, et les enfants se sauvaient de son passage en criant « Le diable ! Le diable !» tandis que les chiens jappaient après lui. Saisi de ce que m'avait raconté Brulette, et voulant lui épargner d'apprendre trop vite une mauvaise nouvelle, je courus au-devant du muletier, et ma première parole fut pour lui dire au hasard et dans un grand trouble « Est-ce donc qu'il est mort ?»« Qui ? Joseph ?» répondit-il. « Non, Dieu merci. Mais vous savez donc qu'il est encore malade ? Est-il en danger ? Oui et non. Mais c'est devant Brulette que je te veux parler de lui. Est-ce là sa maison ? Conduis-moi auprès d'elle. » « Oui, oui, viens, » lui dis-je. Et courant en avant, je dis à ma cousine de se tranquilliser et que les nouvelles n'étaient point si mauvaises qu'elle s'y attendait. Elle appela vitement son grand-père, qui chapusait dans la chambre voisine, et se mit en devoir de recevoir honnêtement le muletier. Mais, le voyant si différent de l'idée qu'elle en avait gardée, si mal connaissable dans sa couleur et son habillement, elle perdit contenance et en détourna ses yeux avec tristesse et confusion. Huriel s'en aperçut bien, car il se prit à sourire, et, relevant ses rudes cheveux noirs, comme par hasard, mais de manière à montrer que le page de Brulette était toujours à son oreille, « C'est bien moi, » dit-il, « et non point un autre. Je viens exprès de mon pays pour vous parler d'un ami, qui, grâce à Dieu, n'est ni mort ni mourant, mais dont cependant il faut que je vous entretienne un peu à loisir. Avez-vous celui de m'écouter ?»« Fort bien, oui, » dit le père Brulet. « Asseyez-vous, mon homme, on va vous servir. »« Il ne me faut rien, » dit Huriel, prenant une chaise. « J'attendrai l'heure de votre repas. Mais avant tout, je me dois faire connaître des personnes à qui je parle. » « Parlez, » dit mon oncle, « on vous entendra. » Neuvième veillée. Alors le muletier. « Je m'appelle Jean Huriel, muletier de mon état, fils de Sébastien Huriel, qui est dit Bastien le Grand Bûcheux, maître sonneur très renommé et ouvrier très estimé dans les bois du Bourbonnais. Voilà mes noms et qualités dont je peux faire preuve et honneur. Je sais que pour gagner plus de confiance, j'aurais dû me présenter à vous, comme j'ai le moyen de paraître. Mais ceux de mon état ont une coutume... Votre coutume, dit le père Brulet, qui lui portait grande attention. Je la connais, mon garçon. Elle est bonne ou mauvaise, selon que vous êtes bon ou mauvais vous-même. Je n'ai pas vécu jusqu'à présent sans savoir ce que c'est que les muletiers. Et comme j'ai roulé autrefois hors du pays, je sais vos usages et comportements. On dit vos confrères sujets à beaucoup de méfaits. On en a vu enlever des filles, battre des chrétiens, voir les faire périr dans de méchantes disputes et leur enlever leur argent. « Je pense, » dit Huriel en riant, « qu'on a beaucoup surpassé le mal en le racontant. Les choses dont vous parlez sont si anciennes qu'on en pourrait retrouver les auteurs. » et la peur qu'on en a eue dans vos pays les a augmentées, si bien que, pendant longues années, les muletiers n'ont osé sortir des forêts qu'en grande bande et avec grand danger. La preuve qu'ils se sont bien amendés et qu'on n'a plus à les craindre, c'est qu'ils ne craignent plus rien eux-mêmes et que me voilà seul au milieu de vous. « Oui, » dit le père Brûlé, qui n'était point aisé à persuader. « Mais vous avez le noir sur la figure, pas moins. Vous avez juré à votre confrérie de suivre son commandement, qui est de passer déguisé en cette mode dans les pays où vous êtes encore suspect, afin que si l'un de vous y fait quelque mal, on ne puisse pas dire, en voyant les autres plus tard, « C'est lui ou ce n'est pas lui. » Enfin, vous êtes tous responsables les uns pour les autres. Ça a son bon côté, qui est de vous faire amis bien fidèles, chacun à la dévotion de tous. Mais ça laisse une grande doutance pour le restant de votre religion. Et je ne vous cache pas que si un muletier, tant bon garçon et avancé d'argent fût-il, venait me demander mon alliance, je lui offrirais bien de bon cœur mon vin et ma soupe, mais je ne le semonderais point d'épouser ma fille. Aussi, dit le muletier, l'œil allumé et regardant hardiment Brulette, qui faisait semblant de penser à autre chose. « N'ai-je point eu l'idée de me présenter dans un pareil dessein? Vous n'avez pas besoin de me refuser, père Brûlé, car vous ne savez pas si je suis mariée ou garçon, je ne vous en ai rien dit. » Brulette baissa les yeux tout à fait, sans laisser voir si elle était contente ou fâchée du compliment. Puis elle reprit son courage et dit au muletier « Il ne s'agit point de cela, mais de José, dont vous deviez nous donner nouvelles, et dont la santé m'angoisse beaucoup le cœur. Voilà mon grand-père qui a élevé ce garçon et qui lui porte de l'intérêt. Ne sauriez-vous nous garder de lui avant toute chose ?» Huriel regarda très fixement Brulette, parut surmonter un moment de chagrin et se raffermir en lui-même pour parler. Puis il dit « Joseph est malade, assez malade pour que je me sois décidé à venir dire à celle qui en est l'auteur « Voulez-vous le guérir ? Et cela est-il en votre pouvoir ?»«
Qu'est-ce que vous chantez là ?»
dit mon oncle, ouvrant l'oreille, qu'il commençait à avoir un peu dure. « En quoi ma fille peut-elle guérir cet enfant dont nous parlons ?»«
Si j'ai parlé de moi avant de parler de lui, » répondit Huriel,
c'est que j'avais à en dire des choses délicates et que vous n'auriez point souffertes du premier venu. À présent, si vous me jugez honnête homme, permettez-moi d'exposer tout ce que je pense et tout ce que je sais.
Expliquez-vous sans crainte, dit vivement Brulette. Je ne m'embarrasse d'aucune idée qu'on puisse avoir de moi.
Je n'ai de vous qu'une bonne idée, belle Brulette, répartit le muletier. « Ce n'est pas votre faute si Joseph vous aime, et si vous le lui rendez dans le secret de votre cœur, personne n'a le droit de vous en blâmer. On peut envier Joseph dans ce cas-là, mais non point le trahir, ni vous faire de la peine. Sachez donc comment vont les choses entre lui et moi depuis le jour où nous avons fait amitié ensemble et où je lui ai persuadé de venir apprendre, en mon pays, la musique dont il se montrait si affolé.
« Je ne sais pas si vous lui avez rendu là un bien beau service, » observa mon oncle. « Mais t'avis qu'il aurait pu l'apprendre ici tout aussi bien, et sans chagriner ni inquiéter son monde. »«
Il m'a dit, » reprit Huriel, « et je l'ai bien vu depuis, qu'il ne serait pas souffert par les autres sonneurs. D'ailleurs, je lui devais la vérité, puisqu'il me donnait sa confiance quasiment à la première vue. La musique est une herbe sauvage qui ne pousse pas dans vos terres. Elle se plaît mieux dans nos bruyères, je ne saurais vous dire pourquoi. Mais c'est dans nos bois et dans nos ravines qu'elle s'entretient et se renouvelle comme les fleurs de chaque printemps. C'est là qu'elle s'invente et fait foisonner des idées pour les pays qui en manquent. C'est de là que vous viennent les meilleures choses que vous entendez dire à vos sonneux. Mais comme ils sont paresseux ou avares, et que vous vous contentez toujours du même régal, ils viennent chez nous une fois en leur vie, et se nourrissent là-dessus tout le restant.
À cette heure même, ils font des élèves qui rabâchent nos vieux airs en les corrompant et qui se croient dispensés de venir consulter nos anciens. Donc, un jeune homme bien intentionné comme toi, disais-je à votre José, qui s'en irait boire à la source, s'en reviendrait si frais et gras nourri que personne ne pourrait se soutenir contre lui. C'est pourquoi José fit accord de partir à la Saint-Jean en suivante et de s'en aller en Bourbonnais, où il trouverait à la fois de l'ouvrage pour vivre dans nos bois et des leçons du meilleur maître. Car il faut vous dire que les plus fameux inventeurs sont dans le Haut-Bourbonnais, vers les bois de pin, du côté où la Sioule descend et mit les monts Dôme, et que mon père, natif du bourg nommé Uriel, d'où il a pris son nom, a passé sa vie dans les meilleurs endroits et se tient toujours en bonne haleine et provision de belles sciences. C'est un homme qui n'aime pas à travailler 2 ans de suite au même pays, et plus il avance en âge, plus il est vif et changeant. Il était en la forêt de Troncel en dernier. Il a été ensuite en celle de l'Épinasse, et il est à cette heure en celle de l'Alleu, où José, toujours fendant, bûchant et cornemusant avec lui, l'a suivi fidèlement, l'aimant comme s'il était son fils, et se louant d'en être pareillement aimé. Il s'y est trouvé aussi heureux que peut l'être un amant séparé de sa maîtresse. Mais la vie n'est pas si douce et si commode chez nous que dans vos pays, et malgré que mon père, conseillé par son expérience, le voulait retenir, Joseph, pressé de réussir, a un peu trop usé de son souffle dans nos instruments, qui sont, comme vous avez pu voir, d'autre taille que les vôtres, et qui fatiguent l'estomac, tant qu'on n'a pas trouvé la vraie manière de les enfler. Si bien que les fièvres l'ont pris, et qu'il a commencé de cracher du sang. Mon père, connaissant le mal, et sachant le gouverner, lui a retiré sa musette et lui a recommandé le repos. Mais si son corps y a gagné d'une façon, il s'y est empiré de l'autre. Il s'est arrêté de tousser et de cracher du sang, mais il est tombé dans un ennui et dans une faiblesse qui ont donné frayeur pour sa vie. Si bien qu'il y a 8 jours, revenant d'un de mes voyages, j'ai trouvé José si pâle que je ne le reconnaissais point, et si lâche sur ses jambes qu'il ne se pouvait porter. Questionné par moi, il m'a dit bien tristement et versant des larmes, « Je vois bien, mon Uriel, que je vais mourir au fond de ces bois, loin de mon pays, de ma mère, de mes amis, et sans avoir été aimé de celle à qui j'aurais tant voulu montrer mon savoir. L'ennui me mange la tête et l'impatience me sèche le cœur. J'aurais mieux souhaité que ton père me laissât m'achever en cornemusant. Je me serais éteint en envoyant de loin à celle que j'aime toutes les douceurs que ma bouche n'a jamais su lui dire et en rêvant que j'étais à son côté. Sans doute le père Bastien a eu bonne intention, car je sentais bien que je m'y tuais par trop d'ardeur. Mais qu'est-ce que je gagne à mourir moins vite? Il n'en faut pas moins que je renonce à la vie, puisque, d'une part, me voilà sans pain et à votre charge, faute de pouvoir bûcher, et que de l'autre, je me vois trop chétif de ma poitrine pour cornemuser. Ainsi c'est fait de moi. Je ne serai jamais rien, et je m'en vas, sans avoir tant seulement le plaisir de me remémorer un jour d'amour et de bonheur. « Ne pleurez pas, Brulette !» continua le muletier en lui prenant la main dont elle s'essuyait le visage. « Tout n'est pas encore perdu. Écoutez-moi jusqu'à la fin. » Voyant l'angoisse de ce pauvre enfant, je m'en allais quérir un bon médecin, lequel, l'ayant examiné, nous dit qu'il avait plus d'ennui que de maladie, et qu'il répondait de le bien guérir s'il pouvait se retenir de sonner et se dispenser de bûcher encore 1 mois durant. Quant au dernier point, c'était bien commode. Mon père n'est pas malheureux, ni moi non plus, Dieu merci, et nous n'avons pas grand mérite à prendre soin d'un ami empêché dans son travail. Mais l'ennui de ne point musiquer et d'être là, loin de son monde, privé de voir sa Brulette, sans profit pour son avancement, a fait mentir le médecin. Un mois s'est quasiment passé et José n'est pas mieux. Il ne voulait pas vous le faire à savoir, mais je l'y ai décidé. Et mêmement, je le voulais amener ici avec moi. Je l'avais bien arrangé sur un de mes mulets et vous le conduisez déjà. Lorsqu'au bout de 2 lieues, il est tombé en faiblesse et j'ai été obligée de le reporter à mon père, lequel m'a dit « Va-t'en au pays de ce garçon et ramène ici sa mère ou sa fiancée. Il n'est malade que de chagrin. » Et en voyant l'une ou l'autre, il reprendra courage et santé pour achever ici son apprentissage ou pour s'en retourner chez lui. Cela dit, devant José, elle a beaucoup secoué. « Ma mère !» criait-il comme un enfant. « Ma pauvre mère, qu'elle vienne au plus tôt !» Mais bien vite, il se reprenait. « Non, non, je ne veux pas qu'elle me voie mourir. Son chagrin m'achèverait trop malheureusement. » « Et Brulette ?» lui disais-je tout bas. « Oh, Brulette ne viendrait pas !» faisait-il. « Brulette est bonne, mais il n'est point possible qu'elle n'ait pas fait choix d'un amoureux qui la retiendrait de me venir consoler. » Alors j'ai fait jurer à José qu'il prendrait au moins patience jusqu'à mon retour, et je suis venu. « Père Brûlé, décidez de ce qu'il faut faire. Et vous, Brulette, consultez votre cœur. » « Maître Uriel, dit Brulette en se levant, j'irai, encore que je ne sois point la fiancée de Joseph, comme vous le dites, et que rien ne m'oblige envers lui, sinon que sa mère m'a nourrie de son lait et portée en ses bras. Mais pourquoi pensez-vous que ce jeune homme ait épris de moi? Puisque, aussi vrai que voilà mon grand-père, il ne m'en a jamais dit le premier mot. « Il m'avait donc bien dit la vérité, s'écria Uriel, comme charmé de ce qu'il entendait. Mais, se raccroissant aussitôt, « Il n'en est pas moins vrai, dit-il, qu'il en peut mourir, d'autant plus que l'espoir ne le soutient pas, et je dois ici plaider sa cause et dire ses sentiments. « En êtes-vous chargé ? » dit Brulette avec fierté et aussi avec un peu de dépit contre le muletier. « Il faut que je m'en charge, commandé ou non, répliqua Uriel. J'en veux avoir le cœur net, à cause de lui qui m'a confié sa peine et demandé mon secours. Voilà donc comme il me parlait. J'ai voulu me donner à la musique, autant par amour de la chose que par amour de mamie Brulette. Elle me considère comme son frère. Elle a toujours eu pour moi de grands soins et une bonne pitié, mais elle n'en a pas moins fait attention à tout le monde, hormis à moi, et je ne l'en peux blâmer. Cette jeunesse aime la braverie et tout ce qui rend glorieux. C'est son droit d'être coquette et avantageuse. J'en ai le cœur fâché, mais c'est la faute du peu que je vaux si elle donne ses amitiés à de plus vaillants que moi. Tel que me voilà, ne sachant ni piocher rude, ni parler roux, ni danser, ni plaisanter, ni même chanter, me sentant honteux de moi et de mon sort, je mérite bien qu'elle me regarde comme le dernier de ceux qui pourraient prétendre à elle. Eh bien, voyez-vous, cette peine me fera mourir si elle dure, et j'y veux trouver un remède. Je sens, dedans de moi, quelque chose qui me dit que je peux musiquer mieux que tout ce qui s'en mêle dans mon endroit. Si j'y aboutais, je ne serais plus en rien du tout. Je deviendrais plus que les autres. Et comme cette fille a du goût et de l'accent pour chanter, elle comprendrait par elle-même ce que je vaux, outre que sa fierté serait flattée de l'estime qu'on ferait de moi. « Vous parlez, dit Brulette en souriant, comme si je l'entendais lui-même, encore qu'il ne m'ait jamais dit cela à propos de moi. Son amour-propre a toujours été en souffrance, et je vois que c'est aussi par l'amour-propre qu'il croirait pouvoir me persuader. » Mais puisqu'une telle maladie le met en danger de mourir, je ferai, pour lui remonter le courage, tout ce qui dépendra de la sorte d'amitié que j'ai pour lui. J'irai le voir avec la Mariton, si toutefois c'est le conseil et la volonté de mon grand-père. « Avec la Mariton, dit le père Brûlé, ça ne me paraît pas possible, pour des raisons que je sais et que tu sauras bientôt, ma fille. Qu'il te suffise, quant à présent, que je te dise qu'elle est empêchée de quitter son maître, à cause d'embarras qu'il a dans ses affaires. D'ailleurs, si la maladie de Joseph peut se dissiper, il est inutile de tourmenter et de déranger cette femme. J'irai donc avec toi, parce que j'ai la confiance, comme tu as toujours gouverné Joseph pour le mieux, que tu auras encore crédit sur son esprit pour le ramener au courage et à la raison. Je sais ce que tu penses de lui, et c'est ce que j'en pense aussi. D'ailleurs, si nous le trouvions dans un état désespéré, nous ferions vitement écrire pour que sa mère vienne lui fermer les yeux. « Si vous voulez me souffrir en votre compagnie pour le voyage, » dit Huriel, « je vous conduirai bien au juste, d'un soleil à l'autre, au pays où se trouve Joseph, et mêmement en une seule journée si vous ne craignez pas trop les mauvais chemins. » « Nous causerons de ça à table, » répondit mon oncle, « et quant à votre compagnie, je la souhaite et la réclame, car vous avez très bien parlé. » Et je ne suis pas sans savoir à quelle famille d'honnêtes gens vous appartenez.
« Connaissez-vous donc mon père ?» dit Huriel.
« En nous entendant nommer Brulette, il nous a dit, à Joseph et à moi, que son père avait eu un ami de jeunesse qui s'appelait Brûlé.
« C'était moi, » dit mon oncle.
« J'ai bûché longtemps, il y a une trentaine d'années, dans le pays de Saint-Amand avec votre grand-père. » Et j'ai connu votre père tout jeune, travaillant avec nous et sonnant déjà par merveille. C'était un garçon bien aimable, qui ne doit pas être encore trop chagriné par l'âge. Quand vous vous êtes fait connaître tout à l'heure, je n'ai pas voulu vous couper la parole. Et si je vous ai un peu tensé sur les coutumes de votre état, c'était à seule fin de vous éprouver. Or donc, asseyez-vous et n'épargnez rien de ce qui est ici à votre service. » Pendant le souper, Huriel se montra aussi raisonnable dans ses discours et aussi gentil dans son sérieux que nous l'avions trouvé divertissant et agréable dans la nuit de la Saint-Jean. Brulette l'écoutait beaucoup et paraissait s'accoutumer à sa figure de charbonnier. Mais quand on parla du chemin à faire et de la manière de voyager, elle s'inquiéta pour son grand-père de la fatigue et du dérangement. Et comme Huriel ne pouvait pas répondre que la chose ne fût bien pénible pour un homme d'âge, je m'offris à accompagner Brulette à la place de mon oncle.
« Voilà la meilleure des idées, » dit Huriel.
« Si nous ne sommes que nous trois, nous prendrons la traverse, et partant demain matin, arriverons demain soir. J'ai une sœur, très sage et très bonne, qui recevra Brulette en sa propre cabiole. » Car je ne vous cache pas que là où nous sommes, vous ne trouverez ni maison, ni coucher selon vos habitudes. « Il est vrai, » reprit mon oncle, « que je suis bien vieux pour dormir sur la fougère, et malgré que je ne sois pas bien complaisant à mon corps, si je venais à tomber malade là-bas, je vous serais d'un grand embarras, mes chers enfants. Or donc, si Tiennet y va, je le connais assez pour lui confier sa cousine. Je compte qu'il ne la quittera d'une semelle dans toute rencontre où il y aurait danger pour une jeunesse. Et je compte sur vous aussi, Huriel, pour ne l'exposer à aucun accident en route. » Je fus bien content de cette résolution et me fis un plaisir de conduire Brulette, de même qu'un honneur de la défendre au besoin. Nous nous départîmes à la nuit, et avant la levée du jour, nous nous retrouvâmes à la porte du même logis. Brunette déjà prête et tenant son petit paquet, Huriel conduisant son clairin et trois mules, sur l'une desquelles il y avait une bâtine très douce et très propre où il assit Brulette. Puis il enfourcha le cheval et moi l'autre mule, un peu étonnée de me voir là-dessus. La troisième, chargée de grandes bannes neuves, suivait d'elle-même et Satan fermait la marche. Personne n'était encore levé dans le village. Et c'était mon regret, car j'aurais souhaité donner un peu de jalousie à tant de galants de Brulette qui m'avaient fait enrager maintes fois. Mais Huriel paraissait pressé de quitter le pays sans être examiné de près et critiqué, aux oreilles de Brulette pour sa figure noire. Nous n'allâmes pas loin sans qu'il me fît sentir qu'il ne me laisserait pas gouverner toute chose à mon gré. Nous étions au bois de Marité sur le midi, et avions fait quasi la moitié du voyage. Il y avait par là un petit endroit qu'on appelle la Ronde, où j'aurais été content d'entrer et de nous payer un bon déjeuner. Mais Huriel se moqua de mon goût pour le couvert, et se voyant soutenu par Brulette, qui était disposée à prendre tout en gaieté, il nous fit descendre un petit ravin où coule une mince rivière qui a nom la Portefeuille, parce que de ce temps-là, du moins, elle était toute couverte des grandes nappes du plateau blanc, et aussi ombragée du feuillage de la forêt, laquelle descendait de chaque côté jusqu'à ses rives. Il lâcha les bêtes dans les joncs, nous choisit une belle place toute rafraîchie d'herbes sauvages, ouvrit les paniers, déboucha le baril et nous servit un aussi bon goûter que nous l'eussions pu faire chez nous, bien proprement, et avec tant d'égards pour Brulette qu'elle ne se put empêcher d'en marquer son plaisir. Et comme elle vit qu'avant de toucher au pain pour le couper et à la serviette blanche qui roulait les provisions, il se lavait avec grand soin les mains dans la rivière jusqu'au-dessus des coudes, elle lui dit en riant et avec son petit air de commandement gracieux « Pendant que vous y êtes, vous pourriez bien aussi vous laver la figure afin qu'on voie si c'est bien vous le beau cornemuseux de la Saint-Jean. » « Non, mignonne, répondit-il, il faut vous habituer à l'envers de la monnaie. Je ne prétends rien sur votre cœur qu'un peu d'amitié et d'estime, malgré que je sois un païen de muletier. Je n'ai donc pas besoin de vous plaire par mon visage, et ce n'est pas pour vous que je le blanchirai. » Elle fut mortifiée, mais ne resta point court. « On ne doit point faire peur à ses amis, dit-elle. Et tel que vous voilà, vous risquez que la frayeur m'ôte l'appétit. En ce cas-là, j'irai donc manger à l'écart pour ne vous point écœurer. » Il le fit comme il le disait, s'assit sur une petite roche qui avançait dans l'eau, en arrière de l'endroit où nous étions assis, et se mit à manger seul, tandis que je profitais du plaisir de servir Brulette. Elle en rit d'abord, croyant l'avoir fâchée, et y prenant gré comme toutes les coquettes. Mais quand elle se lassa du jeu et le voulut ramener, elle eut beau l'exciter en paroles, il tint bon. Et chaque fois qu'elle tournait la tête de vers lui, il lui tournait le dos en se cachant d'elle et en lui répondant, bien à propos, mille badineries, sans montrer aucun dépit, ce qui, pour elle, était peut-être bien le pire de la chose. De sorte qu'elle en eut regret, et à un mot un peu vif qu'il lâcha sur les bégueules et qu'elle crut dit à son intention, deux larmes lui tombèrent des yeux, encore qu'elle eût bien voulu les retenir en ma présence. Huriel ne les vit point, et je n'eus garde de paraître les avoir vus. Quand nous fûmes assez repus pour une fois, Huriel me dit de serrer le restant de nos vivres et ajouta, « Si vous êtes là, mes enfants, vous pouvez faire un somme ici, car nos bêtes ont besoin qu'on laisse passer la grande chaleur du jour. C'est l'heure où la mouche est enragée, et dans ces taillis, elles se peuvent frotter et secouer à leur guise. Je compte, Tiennet, que tu feras bonne garde à notre princesse. Moi, je vais monter un peu dans la forêt pour voir comment s'y gouverne l'œuvre du bon Dieu. » Et d'un pas léger, ne sentant pas plus le chaud que si nous étions au mois d'avril, encore que ce fût en plein juillet, il grimpa la côte et se perdit sous les grands arbres. Dixième veillée. Brulette fit de son mieux pour me cacher son ennui de le voir partir. Mais ne se sentant point le cœur à la causette, elle fit mine de s'endormir sur le sable fin de la rive, la tête appuyée sur les paniers qu'on avait retirés au mulet pour le soulager, et le visage garanti des mouches par son mouchoir blanc. Je ne sais si elle dormit. Je lui parlai deux ou trois fois sans avoir réponse, et comme elle m'avait laissé mettre ma figure sur le bout de son tablier, je me tins quoi aussi, mais sans dormir d'abord, car je me sentais bien encore un peu agitée par son voisinage. Enfin, la fatigue me gagna, et je perdis ma connaissance pour un bout de temps. Quand elle me revint, j'entendis causer, et connut à la voix que le muletier était revenu et s'entretenait avec Brulette.
Je ne voulus point déranger le tablier afin de pouvoir les entendre parler librement. Mais je le tenais bien serré dans mes mains, et la fillette n'aurait pas pu s'éloigner d'un pas, encore qu'elle l'eût voulu.
« Mais enfin, j'ai le droit, disait Huriel, de vous demander quelle conduite vous avez résolu de tenir avec ce pauvre enfant. Je suis son ami plus qu'il ne m'est permis d'être le vôtre, et je me reprocherai de vous avoir amené auprès de lui si votre idée était de le tromper. »
« Et qui vous parle de le tromper ? » répondit Brulette. « Pourquoi critiquez-vous mon intention sans la connaître ?»«
Je ne la critique pas, Brulette. Je vous questionne en homme qui aime beaucoup Joseph et qui vous porte assez d'estime pour croire que vous irez franchement avec lui. »
« Cela ne regarde que moi, maître Huriel. Vous n'êtes pas juge de mes sentiments, et je n'en dois confidence à personne. Je ne vous demande pas, moi, si vous êtes franc et fidèle envers votre femme. »
« Ma femme ? » fit Huriel, comme étonné.
« Eh oui, reprit Brulette, n'êtes-vous point mariée ? »
« Vous ai-je dit cela ? »
« Je croyais que vous l'aviez dit chez nous hier soir. » Quand mon grand-père, s'imaginant que vous veniez me parler mariage, s'est dépêché de vous refuser.
Je n'ai rien dit du tout, Brulette, si ce n'est que je ne demandais pas le mariage. Avant d'avoir la personne, il faut avoir le cœur, et je n'ai pas droit au vôtre.
Je vois au moins, dit Brulette, que vous êtes plus raisonnable et moins hardi avec moi que l'an passé.
Oh, reprit Huriel. Si je vous ai dit, à la fête de votre village, des paroles un peu vives, c'est qu'elles me sont venues comme ça en vous voyant. Mais le temps a passé là-dessus, et vous devriez avoir oublié l'offense.
Qui vous dit que je m'en souvienne? Est-ce que je vous en fais reproche?
Vous me la reprochez en vous-même, ou tout au moins vous en gardez souvenance, puisque vous ne me voulez point parler clairement au sujet de Joseph.
« J'ai cru, dit Brulette, dont la voix marquait un peu d'impatience, que je m'étais expliqué là-dessus bien clairement hier au soir. Mais quel accord voulez-vous donc faire entre ces deux choses-là? Plus je vous aurai oublié, moins je dois être pressée de vous confesser mes sentiments pour n'importe qui.
« Tenez, mignonne, dit le muletier, qui ne paraissait donner dans aucune des petites réserves de Brulette. Vous avez très bien parlé sur le passé hier au soir, mais vous n'avez guère appuyé sur l'avenir, et je ne sais pas encore ce que vous comptez dire de bon à Joseph pour le raccommoder avec la vie. Pourquoi refusez-vous de me le faire savoir franchement?
Mais qu'est-ce que cela vous fait, je vous le demande? Si vous êtes marié ou seulement engagé de parole, vous ne devez point tant regarder à travers le cœur des filles.
Brulette. Vous voulez absolument me faire dire que je suis libre de vous faire la cour. Et vous, vous ne me direz rien de votre position. Je ne dois pas savoir si vous devez un jour favoriser Joseph ou si vous n'avez pas donné parole à quelque autre, ne fût-ce qu'à ce grand garçon-là qui dort sur votre tablier.
Vous êtes trop curieux, dit Brulette en se levant et en se hâtant de me retirer le tablier que je fus bien forcée de lâcher. En faisant celui qui s'éveille.
Partons, dit Huriel, que la mauvaise humeur de Brulette ne paraissait point entamée, et qui montrait toujours le rire sur ses dents blanches et dans ses grands yeux, les seuls endroits de sa figure qui ne fussent point en deuil. Nous reprîmes le chemin du Bourbonnais. Le soleil s'était caché sous une grosse nuée qui montait, et il commençait à tonner dans les bas du ciel.
« Cet orage-là n'est rien, dit le muletier. Il s'en va sur notre gauche. Si nous n'en rencontrons pas un autre en tirant sur les affluents de la Joyeuse, nous arriverons sans peine. Mais le temps est si lourd qu'il faut s'apprêter à tout. »
Il déplia alors son manteau, qui était lié derrière lui avec une belle capiche de femme, toute neuve, dont Brulette s'émerveilla.
« Vous ne direz pas, fit-elle en rougissant, que vous n'êtes pas marié, à moins que ce ne soit un cadeau de noces que vous avez acheté en chemin.
C'est possible, dit Huriel du même air. Mais s'il vient à pleuvoir, vous les traînerez,
et ne le trouverait pas de trop, car votre cape est légère. » Comme il l'avait prédit, le temps s'éclaircit d'un côté et s'embrouilla de l'autre. Et comme nous traversions une brande plate entre Saint-Saturnin et Sidiailles, il s'émalissa tout d'un coup et nous battit d'un grand vent. Le pays devenait sauvage, et la tristesse me prit malgré moi. Brulette aussi trouva l'endroit bien aride, et observa qu'il n'y avait pas un seul arbre pour s'abriter. Huriel se moqua de nous. « Voilà bien les gens des pays de blé, » dit-il. « Aussitôt qu'ils foulent la bruyère, ils se croient perdus. » Comme il nous conduisait en droite ligne, connaissant, comme son œil, toutes les sentes et coursières par où un mulet pouvait passer pour abréger le chemin, il nous fit laisser Sidiailles sur la gauche et descendre tout droit au bord de la petite rivière de Joyeuse, un petit rio qui n'avait pas la mine d'être bien méchant, et que pourtant il se montra pressé de passer. Quand ce fut fait, la pluie commença de tomber, et il fallait ou nous mouiller ou nous arrêter en un moulin qu'on appelle le moulin des paumes. Brulette voulait passer outre, et c'était aussi le conseil du muletier, qui pensait ne pas devoir attendre que les chemins fussent gâtés. Mais j'observai que la fille m'étant confiée, je ne devais point l'exposer à attraper du mal, et Huriel se rendit cette fois à mon vouloir. Nous fûmes arrêtés là deux grandes heures, et quand il fut possible de se risquer dehors, le soleil s'en allait grand train. La Joyeuse avait si bien enflé que c'était une vraie rivière, dont le guéage n'eût pas été commode. Heureusement, nous l'avions derrière nous, mais les chemins étaient devenus abominables, et nous avions encore une petite rivière à traverser avant de nous trouver en Bourbonnais. Tant que le jour dura, nous pûmes avancer, mais la nuit vint si noire que Brulette eut peur, sans oser le dire. Huriel, qui s'en aperçut à son silence, descendit de cheval, et, chassant devant lui cette bête qui connaissait le chemin aussi bien que lui-même, il prit la bride du mulet qui portait ma cousine et le conduisit bien adroitement pendant plus d'une heure, le soutenant pour qu'il ne bronchât et se mettant dans l'eau ou dans les sables jusqu'aux genoux, sans souci de rien pour son compte, et riant chaque fois que Brulette le plaignait ou le priait de ne pas se tuer pour elle. Là, elle s'avisa bien qu'il était ami plus fidèle et plus secourable qu'un simple galant, et qu'il savait aider beaucoup sans se faire valoir. Le pays me paraissait de plus en plus vilain. C'était toute petite côte verte, coupassée de ruisseaux bordés de beaucoup d'herbes et de fleurs qui sentaient bon, mais ne pouvait en rien amender le fourrage. Les arbres étaient beaux, et le muletier prétendait ce pays plus riche et plus joli que le nôtre, à cause de ses pâturages et de ses fruits. Mais je n'y voyais pas de grandes moissons, et j'eusse souhaité être chez nous, surtout voyant que je ne servais de rien à Brulette, et que j'avais assez à faire pour mon compte de me tirer des viviers et des trous du chemin. Enfin le temps s'éclaircit, la lune se montra, et nous nous trouvâmes dans le bois de la Roche, au confluent de l'Arnon et d'une autre rivière dont j'ai oublié le nom. « Restez sur la hauteur, » nous dit Huriel. « Vous pouvez même y mettre pied à terre pour vous dégourdir les jambes. C'est sablonneux, et la pluie n'a guère percé les chênes. Moi, je vais voir si nous pouvons passer le gué. » Il descendit jusqu'à la rivière, et remontant bientôt, « Tous les fonds sont noyés, » nous dit-il, « et il nous faudrait peut-être remonter jusqu'à Saint-Palais pour passer en Bourbonnais. Si nous ne nous étions pas arrêtés au moulin de la Joyeuse, nous aurions devancé le débordement, et nous serions rendus à cette heure. Mais ce qui est fait est fait. Voyons ce qui nous reste à faire. L'eau tend à s'écouler. En restant ici, nous pouvons passer dans 4 ou 5 heures. » Et nous arriverons à notre destination au petit jour, sans fatigue et sans danger. Car entre les deux bras de l'Arnon, nous avons pays de plaine sèche, au lieu que si nous remontons jusqu'à Saint-Palais de Bourbonnais, nous risquons de barboter toute la nuit pour ne pas arriver plus tôt. « Eh bien, » dit Brulette, « restons ici. L'endroit est sec et le temps clair. Et encore que nous soyons en un bois un peu sauvage, je n'aurai point peur avec vous deux. »
Voilà enfin une brave voyageuse, dit Huriel. Or ça, soupons, puisque nous n'avons rien de mieux à faire. Tiennet, attache le clairin, car nous avons beaucoup d'autres bois avoisinant celui-ci, et je ne répondrai pas de la traîtrise de quelques loups. Déshabille les mules, elles ne s'éloigneront pas de la clochette. Et vous, mignonne, aidez-moi à faire le feu, car l'air est encore humide, et je suis d'avis que vous ne preniez pas de rhume en mangeant bien à votre aise. »
Je me sentais le cœur très découragé et attristé, sans pouvoir me dire pourquoi. Soit que j'eusse honte de n'être bon à rien dans un pareil voyage auprès de Brulette, soit que le muletier eût raison de me plaisanter. J'étais déjà comme si j'avais eu le mal du pays.
« De quoi te plains-tu ? » me disait cependant Huriel, qui paraissait toujours plus gai à mesure que nous étions plus en détresse. « N'es-tu pas là comme un moine en son réfectoire ? Ces rochers ne sont-ils pas disposés comme pour nous servir de cheminée, de dressoir et de siège ? Ne voilà-t-il pas ton troisième repas aujourd'hui ? Cette claire lune d'argent n'éclaire-t-elle pas mieux que ta vieille lampe d'étain ? Nos vivres, bien couverts dans mes bannes, ont-ils souffert de la pluie ? Ce grand foyer ne sèche-t-il pas l'air autour de nous ? Ces branches et ces herbes mouillées n'ont-elles pas meilleure senteur que vos provisions de fromage et de beurre rance ? Est-ce qu'on ne respire pas autrement sous ces grandes voûtes de branches ? Regarde-les, éclairées par la flamme de notre campement. Ne dirait-on pas des centaines de grands bras maigres qui s'entrecroisent pour nous abriter ? Si, de temps en temps, un petit vent nous secoue la feuillée humide sur la tête, n'en vois-tu pas pleuvoir des diamants qui nous couronnent ? Qu'est-ce que tu trouves de si triste dans l'idée que nous sommes seuls dans un lieu inconnu pour toi ? Ne rassemble-t-il pas ce qu'il y a de plus consolant dans la vie ? Dieu, d'abord, qui est partout, et ensuite une fille charmante et deux bons amis prêts à s'entraider. Et puis, croyez-vous que l'homme soit fait pour nicher toute l'année ? Mais ta vie, au contraire, que son destin est de courir, et qu'il serait 100 fois plus fort, plus gai, plus sain d'esprit et de corps, s'il n'avait pas tant cherché ses aises, qui l'ont rendu molle, craintif et sujet aux maladies. Plus vous fuyez le froid et le chaud, plus il vous blesse quand il vous attrape. Vous verrez mon père, qui, comme moi, n'a peut-être pas dormi dans un lit 10 fois en sa vie, s'il a des courbatures et des rhumatismes, encore qu'il travaille en bras de chemise en plein hiver. Et puis enfin, n'est-ce pas réjouissant de se sentir plus solide que le vent et les tonnerres du ciel ? Quand l'orage gronde, n'est-ce pas la plus belle des musiques ? Et les courants d'eau qui s'engouffrent dans les ravines et qui s'en vont sautant d'une racine sur l'autre en portant les cailloux et laissant leur écume aux tiges des fougères. Ne chantent-ils pas aussi des chansons folles qui portent aux jolis rêves quand on s'endort dans les îlots, quand une nuit ils découpent autour de vous ? Les bêtes s'attristent du mauvais temps, j'en conviens. Les oiseaux se taisent, les renards se terrent, mon chien lui-même cherche un abri sous le ventre de mon cheval. Mais ce qui distingue l'homme des animaux, c'est de conserver son cœur tranquille et allègre au milieu des batailles de l'air et du caprice des nuées. Lui seul, qui sait se préserver, par son raisonnement, de la peur et du danger, a le pouvoir et l'instinct de sentir ce qu'il y a de beau dans ce vacarme. Brulette écoutait le muletier avec un grand saisissement. Elle suivait ses yeux et tous ses gestes, et goûtait chaque chose qu'il disait, sans s'expliquer à elle-même comment des paroles et des idées si nouvelles lui montaient la tête et lui échauffaient le cœur. Je m'en sentais bien un peu touchée aussi, encore que j'y fisse plus de résistance. Car Huriel avait une mine si aimable et si résolue sous son barbouillage qu'on en était gagné malgré soi, comme lorsqu'on se voit surpassé au mail par un si beau joueur qu'on lui rend hommage tout en perdant son enjeu. Nous n'étions pas pressés de finir notre souper, car de vrai nous étions très bien séchés,
et quand notre feu ne fut plus qu'un tas de cendres chaudes, le temps était devenu si doux et si clair que nous nous trouvions très dispos et tout à fait soutenus en courage et bien-être par les joyeux propos et beaux devis du muletier. De temps en temps, il se taisait pour écouter la rivière qui grondait toujours assez fort, et comme les eaux, tombées dans les hauts, s'épanchaient vers son lit en mille petits ruisseaux encore grouillants, il n'y avait point d'apparence que nous puissions nous remettre en marche avant la tombée de la nuit. Huriel, ayant été encore s'en assurer, revint nous donner le conseil de dormir. Il fit un lit à brûlette avec les bâtines des animaux et l'enveloppa bien de tout ce qu'il avait de vêtements de rechange, toujours bien gaiement et sans lui compter davantage fleurettes, mais en lui marquant l'intérêt et la douceur qu'il aurait eu pour un petit enfant. Puis il s'étendit, sans manteau ni coussin, sur la terre séchée aux alentours du foyer, m'invitant à faire de même, et bientôt dormit comme un loir, ou peu s'en faut. J'étais bien tranquille, mais je ne dormais point, car je ne pouvais goûter cette façon de dortoir. Lorsque j'entendis au loin une sonnette, comme si le clairin se fût détaché et écarté dans la forêt. Je me soulevai et le vis bien tranquille au lieu où nous l'avions mis. C'était donc un autre clairin qui nous annonçait l'approche ou le voisinage d'autres muletiers. Tout aussitôt, je vis Huriel se soulever aussi, écouter, se lever tout à fait et venir à moi. « J'ai le sommeil dur, me dit-il, et quand je n'ai que mes mules à garder, je peux m'oublier quelquefois. Mais comme j'ai ici la garde d'une princesse fort précieuse, c'est autre chose, et je n'ai dormi que d'un œil. Ainsi as-tu fait, Tiennet, et c'est bien. Parlons bas et ne bougeons, car j'aime autant ne pas faire rencontre de mes confrères. Mais comme j'ai bien choisi la place où nous sommes, il y a peu d'apparence qu'on nous y découvre. » Il n'avait pas fini de parler qu'une figure noire glissa entre les arbres et passa si près de Brulette que, pour un peu, elle l'eût heurté sans la voir. C'était un muletier, qui aussitôt fit un grand cri en manière de sifflement, auquel d'autres cris pareils furent répondus de plusieurs endroits, et en moins d'un instant, une demi-douzaine de ces diables, tous plus affreux à voir les uns que les autres, furent autour de nous. Nous avions été trahis par le chien d'Huriel, qui, sentant des amis et des connaissances dans les chiens des muletiers, avait été à leur rencontre et servi de guide à leur maître pour trouver notre gîte. Huriel avait beau s'en cacher, il marquait de l'inquiétude, et malgré que j'eusse averti doucement Brulette de ne bouger point et que je me fusse mis devant elle pour la cacher, il paraissait impossible, entourés comme nous l'étions, de la sauver bien longtemps de leurs yeux. J'avais une idée confuse du danger, et le devinais plus que je ne le voyais, car Huriel n'avait pas eu le temps de m'expliquer le plus ou moins de chrétienté des gens avec qui nous nous trouvions. Il s'entretenait avec lui dans le patois quasi auvergnat du Haut-Bourbonnais, que notre ami parlait aussi bien qu'eux, encore qu'il fût né dans le bas pays. Je n'y comprenais qu'un mot de temps en temps, et voyais bien qu'il le traitait de bonne amitié et lui demandait ce qu'il faisait là et qui j'étais. Je le voyais désireux de les éloigner, et même il me dit, pour être entendu d'eux, qui comprenaient aussi langage de chrétien, « Allons, mon camarade, nous allons souhaiter le bonjour à ses amis et reprendre notre chemin. » Mais, au lieu de nous laisser à nos apprêts de départ, ils trouvèrent la place bonne pour se réchauffer et se reposer, et se mirent en devoir de déshabiller leurs mulets pour les laisser paître jusqu'au jour. « Je vas crier au loup pour les éloigner un moment, » me dit tout bas Huriel. « Ne bouge de là, ni elle non plus, je reviens. Toi, habille nos montures et nous partirons vite, car de rester ici, c'est le pire que nous puissions faire. » Il fit comme il disait, et les muletiers coururent du côté où il criait. Par malheur, je manquais de patience et m'imaginais devoir profiter de cette confusion pour me sauver avec Brulette. Il m'était possible de la faire lever sans qu'on eût les yeux sur elle. Jusque-là, les manteaux qui la couvraient l'ayant fait prendre pour un amas de hardes et d'équipage. Elle m'observa, bien qu'Uriel nous avait dit de l'attendre. Mais je me sentais pris de colère, de peur et de jalousie. Tout ce que j'avais ouï dire de la communauté des muletiers me revenait en l'esprit. J'avais des soupçons sur Uriel lui-même, si bien que je perdis la tête. Et voyant un fourré très voisin, je pris ma cousine résolument par la main et l'y entraînai à la course. Mais la lune était si claire et les muletiers si près que nous fûmes vus et qu'il s'éleva un cri.
« Ohé, ohé, une femme !»
Et tous ces coquins se mettant à notre poursuite, je vis qu'il n'y avait plus d'autre moyen que de s'y faire tuer. Alors, faisant tête comme un sanglier et levant mon bâton, j'allais décharger sur la mâchoire du plus approché de moi un coup qui ne l'aurait peut-être pas mis en paradis, sans Uriel qui me retint le bras en se montrant à mon côté bien lestement. Alors, il leur parla avec beaucoup d'action et de résolution, et il s'ensuivit comme une dispute, où Brulette ni moi ne comprenions un mot, et qui ne paraissait guère rassurante, car Uriel, écouté par moments, ne l'était plus dans d'autres, et deux ou trois fois, l'un de ces mécréants, qui paraissait le plus animé, mit sa griffe de diable sur le bras de Brulette, comme pour l'emmener. Et, sans moi qui lui enfonçais mes ongles dans sa peau de bouc pour le faire lâcher prise, il l'aurait arraché de mes bras avec l'aide des autres. Car ils étaient huit dans ce moment-là, tous armés de bons épieux et paraissant coutumiers des querelles et des injustices. Uriel, qui gardait mieux son sang-froid et qui se plaçait toujours entre nous et l'ennemi, me retint de porter le premier coup, lequel, comme je le compris ensuite, nous eut perdus. Il se contenta de parler, tantôt sur un ton de remontrance, tantôt sur un air de menace, et finit en se retournant vers moi par me dire en ma langue « N'est-ce pas, Étienne, que voilà ta sœur une honnête fille, laquelle m'est accordée et vient en Bourbonnais pour faire connaissance avec ma famille ? Ces gens-ci, qui sont mes confrères et bons enfants vis-à-vis le droit et la justice, ne me cherchent noise que par doutance de la vérité. Ils s'imaginent que nous étions ici en causette avec la première venue et prétendent nous garder en leur compagnie. Mais je leur dis et je jure Dieu qu'avant de faire affront même d'une parole à cette jeunesse, il leur faudra nous tuer ici tous les deux et avoir notre sang sur leur tête et sur leurs âmes devant le ciel et devant les hommes. Eh bien, quand même, répondit en même langage français un de ces forcenés, celui qui venait toujours sur moi et que je grillais d'étendre par terre d'un coup de poing dans l'estomac. « Si vous vous y faites tuer, tant pis pour vous, il ne manque pas de fosse par ici pour en tirer deux imbéciles. Et qu'on vienne les chercher ensuite, nous serons loin, et les arbres ni les pierres n'ont de langue pour raconter ce qu'ils ont vu. » Par bonheur, celui-là était le seul coquin de la bande. Il fut blâmé des autres, et mêmement un grand rouge, qui paraissait se faire écouter, le prit par un bras et le poussa loin de nous, en lui disant, dans son charabia, des reproches et des jurements à faire trembler toute la forêt. Et de ce moment, le plus gros danger fut passé, l'idée du sang versé ayant soulevé, à propos, la conscience de ces hommes sauvages. Ils tournèrent la chose en riant et plaisantèrent Uriel, qui leur répondit de même, faisant contre fortune bon cœur. Mais ils ne paraissaient point encore résolus à nous laisser partir. Ils souhaitaient voir le visage de Brulette, qui se tenait cachée sous sa cape et qui, contre sa coutume, eût bien souhaité se faire passer pour vieille et laide. Mais tout d'un coup, elle changea d'idée, en devinant que les mauvaises paroles dites à Uriel et à moi en baragouin d'Auvergne s'adressaient à elle en questions assez vilaines. Emportée de colère et de fierté, elle se dégagea de mon bras et, jetant sa cape de dessus sa tête, « Homme sans cœur !» leur dit-elle d'un ton offensé et rempli de courage. « J'ai le bonheur de ne pas comprendre ce que vous me dites, mais je vois bien que vous avez intention de me faire insulte dans vos pensées.
Eh bien, regardez-moi, et si jamais vous avez vu la figure d'une femme qui mérite respect, connaissez que la mienne y a droit. Ayez honte de votre vilain comportement, et laissez-moi continuer mon chemin sans plus vous entendre. » L'action de Brulette, encore que hardie, fit comme un miracle. Le grand rouge haussa les épaules, sifflota un petit moment, tandis que les autres se consultaient, un peu interloqués. Puis tout d'un coup, il tourna le dos, disant d'une voix forte « Assez causé. En route. Vous m'avez élu chef de bande, j'appliquerai punition à qui tourmentera davantage Jean Huriel, bon compagnon et bien vu de toute la confrérie. » Ils s'éloignèrent, et Huriel, sans faire réflexion ni dire un mot, rhabilla les mulets 4 à 4, nous fit monter dessus, et passant devant, non sans se retourner à chaque pas, nous mena bon train au bord de la rivière. Elle était encore bien grosse et bien grondeuse, mais il ne barguigna point pour y entrer, et quand il fut au mi-temps, « Venez, cria-t-il, n'ayez peur. » Et comme j'hésitais un peu à faire mouiller Brulette, car elle y avait déjà les pieds, il revint vers nous comme en colère, et frappa la mule pour la faire avancer au plus creux, jurant, et disant qu'il valait mieux être morte qu'insultée. « C'est bien ce que je pense, » lui répondit Brulette sur le même ton. Et frappant aussi, elle se jeta hardiment dans le courant qui écumait jusqu'au-dessus du poitrail de la mule.